Cercavo la grande bellezza. Ma non l'ho trovata.
That's funny. That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor d'Étoiles plein les yeux. À notre collection Dieu acéré s'ajoute cette semaine ceux de Sarah, qui s'est jointe à Maxime et à moi-même. Quant à la toile, c'est le dernier film des frères Cohen qu'on y projetait, avec César. Chris Mannix travaille dans un grand studio hollywoodien des années 50, où il est plus ou moins chargé de faire en sorte que tout se passe bien sur les différents tournages. Jeune star enceinte, journaliste trop curieux, lubies des acteurs sont autant de problèmes qu'il gère jour après jour. Et c'est ainsi qu'il se retrouve face à l'enlèvement de la vedette d'un gigantesque péplum biblique par une mystérieuse organisation qui se révèle être une cellule communiste. Le scénario paraît assez sommaire, mais il prétexte à un ébouriffant voyage dans les studios hollywoodiens de l'époque, peint avec un humour qui confine au sketch parfois, à travers une galerie de personnages et de scènes pour le moins haut en couleur. Les frères Cohen sont sur la face ouvertement comique de leur cinéma. Et c'est vous, Maxime et Sarah, qui allez nous dire si ça fonctionne. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ?
Je voudrais rebondir sur ton idée de film haut en couleur, parce qu'effectivement, il me semble que c'est vraiment un film feu d'artifice. Enfin, moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Il y a des scènes très courtes avec des personnages qui ne se développent pas et qui n'ont pas le temps de le faire parce que... vraiment, c'est une sorte de feu d'artifice, de petite pique acerbe qui cherche à critiquer, bien sûr, le cinéma hollywoodien, bon, en tout cas d'après moi, et qui fuse dans tous les sens sans vraiment de cohérence, apparemment, mais qui en même temps, au final, à la fin du film, forme une vraie harmonie de couleurs, une sorte de, ouais, de tableau multicolore, ou en couleur.
Et c'est vrai qu'on a, à mon sens, une comédie très kaléidoscopique, parce que oui, c'est avec beaucoup d'histoires enchâssées, cette intrigue centrale qui finalement est pas si centrale que ça dans le film, qui se mêle à d'autres intrigues avec parfois des plusieurs passages en fait qui sont des films dans le film, vraiment, qui sont vraiment traités comme des courts-métrages à part entière qui pourraient s'inscrire dans cette espèce d'hommage très vivant, très saisissant l'histoire d'Hollywood, en tout cas à ce moment de l'histoire d'Hollywood. C'est d'ailleurs intéressant parce que dans le générique, à la fin, la distribution de ces courts-métrages est carrément séparée du reste. Donc c'est pour dire à quel point on a une espèce d'éclat comme ça, avec une histoire centrale qui suit plus ou moins des fils parallèles et puis même des mini-films enchâssés comme ça. Mais c'est vraiment très vivant et j'ai trouvé ça très... vivant et drôle, vraiment.
Il y a même une sorte d'esthétique de la mise en abîme, parce que comme il y a ces scènes-là de films enchâssés, sont vraiment mises en valeur. Enfin, on sent que les frères Cohen cherchent à faire de ça un petit bijou, en quelque sorte, avec les chorégraphies, par exemple, celle avec la sirène qui est juste rocambolesque, et puis les marins qui sautent partout aussi, celle-là est vraiment géniale. Enfin, un peu à Gene Kelly, en plus, j'aime beaucoup ce style-là. Non, vraiment, c'est très... très coloré, très, très varié.
Mm. Oui, c'est vraiment, on sent qu'ils sont amusés, qu'ils prennent un véritable plaisir à parcourir l'intégralité des genres cinématographiques de l'époque. On a vraiment de tout. Ça va de la comédie aquatique, la comédie musicale, on passe au mélodrame. Il y a ce film, cette espèce de film d'aventure, d'espionnage qui surgit au milieu avec cette cellule communiste complètement abracadabrantesque qui enlève l'acteur. Il y a quand même un moment où on voit surgir un improbable sous-marin de
l'air. Ouais, avec des plans.
C'est fantastique, mais vraiment la dramatisation à ce moment-là est tellement délicate.
D'un seul coup, on se retrouvait dans une espèce de film de propagande soviétique.
Exactement.
Oula, est-ce qu'on a un hommage carrément? Enfin, je sais pas où on part, mais c'était assez impressionnant.
C'est vraiment drôle, hein, ce
ça
moment-là.
Sort comme ça.
Oui, la com du film a pas mal été faite autour finalement de l'intrigue qui tourne autour de George Clooney et de son enlèvement. Mais c'est vrai, enfin c'est faussé l'esprit du film complètement, dans la mesure où c'est vraiment une série, mais presque de sketchs. Je le disais en introduction, il y a certains passages qui sont des entités à part entière et qui n'ont pas d'autre but apparent dans le film que de faire rigoler un bon coup, mais qui finalement, oui, ont vraiment une cohérence à la fin, dans la mesure où, comme tu le disais, le but, c'est d'épingler ce cinéma de l'époque. J'irais peut-être pas jusqu'à dire critiquer, oui, dans la mesure où il y a quand même une grande affection pour ce cinéma.
En fait, peut-être plutôt une critique de soi-même, en fait, parce que la critique finit par toucher le film lui-même, puisque, par exemple, la scène du sous-marin, on voit bien que l'acteur est surjoue complètement, et du coup, en fait, c'est peut-être pas une critique tant du cinéma des années 50 qu'une sorte d'autodérision. Qui permet de revenir sur ces films assez à gros
budget et AV César est probablement un film à énorme budget aussi.
Il y a de l'autodérision d'après moi. Je pense que c'est une sorte de parodie de soi-même plus qu'une critique du cinéma des années 50. Et du coup, c'est aussi. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure du film, il y a une sorte de décalage de cette critique qui au départ est vraiment dans le on voit Georges Clooney en jupette, donc on est content, c'est drôle, voilà, mais en même temps au fur et à mesure c'est les personnages eux-mêmes qui sont presque un peu parodiés.
Et il y a pas mal d'acteurs qui sont aussi dans cette posture, à commencer par George Clooney évidemment, qui est une parodie de son image, aussi. Tilda Swinton est un petit peu dans ce jeu-là aussi, de femme très très pincée.
Scarlett Johansson
évidemment, qui est dans la caricature de l'image qu'on a d'elle.
Vraiment, oui.
Et tout ce film est construit autour de ces parallèles. Le but de tout ça est quand même un petit peu de nous mettre face à un monde où tout est factice, finalement. Le thème principal du film est peut-être justement le faux. C'est-à-dire que finalement, tout semble faux, à commencer par les procédés qu'utilisent les frères Cohen eux-mêmes, parce que le spectateur est absolument pas dupe quand il voit sortir un sous-marin. Ces deux sœurs jumelles jouées par la même actrice qui s'habillent pareil, c'est pas fait pour qu'on y croit. Et même à l'intérieur, on a toute une construction autour du vrai, du faux, de ce à quoi on doit croire, parce que la croyance est quand même très très importante. La première image, c'est quand même un Christ. La dernière scène, George Clooney bute sur le mot foi, alors qu'il vient de faire une grande profession de foi communiste qui lui a valu une belle paire de claques.
Oui, et finalement, c'est pareil finalement. La profession de foi auprès des militants communistes, comme auprès de... comme la scène en fait qu'il doit jouer, enfin c'est vraiment la scène la plus elle est annoncée comme la scène pivot du film qui est en train de se faire, et elle commence comme une sorte de scène pivot du film, enfin quand il parle on se dit alors qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que finalement où elle va cette profession de foi, qu'est-ce qu'elle fait dans ce film, et finalement elle bute sur le mot le plus important, le mot qui donne son sens à tout, ce qui fait qu'elle se prend plus du tout au sérieux en fait, même cette scène pivot centrale, du coup on a pas vraiment de tous les messages un peu on a énormément de messages à la fois religieux, politiques qui sont évoqués avec beaucoup de distance. Et en même temps, des allusions à un contexte historique qui sont, elles, très, très discrètes.
Oui, je pense que justement, en fait, tous ces messages dont tu parlais, qui sont un peu évoqués comme ça de temps en temps dans le film, c'est peut-être aussi pour montrer que donc, la révélation du Christ à George Clooney, la révélation du communisme à George Clooney, c'est une sorte de remise en question de la croyance en général et peut-être, en fait, de la croyance au cinéma. Est-ce qu'il faut que le spectateur croit vraiment ce qu'il voit ? C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Rémi. On essaie de montrer les décors en carton-pâte et les couleurs kitsch du Technicolor. Enfin, il y a un peu de ça, je trouve. Et, c'est une sorte de remise en question aussi.
C'est exactement ça, oui. Cette question de la croyance, c'est finalement vers le cinéma qu'elle est tournée, parce que c'est quand même un film sur le cinéma. Et ça, c'est pas pour rien que c'est le personnage principal qui se pose des questions par rapport au cinéma. C'est lui qui, pendant tout le film, doute quant à savoir s'il va abandonner son métier dans le cinéma ou pas, s'il va, comme lui propose celui qu'ils veulent débaucher, s'il va se mettre au service de quelque chose de véritablement utile, plutôt que de travailler pour des clowns, pour des gens qui font semblant.
Quelque chose qui se prend extrêmement au sérieux, alors que tout le reste ne se prend pas au sérieux, et pourtant est sérieux en soi, la controverse théologique aussi bien que les mots qui sont employés par les militants sont extrêmement précis. Enfin, c'est vraiment, ça pourrait ressortir de vrais débats en fait, mais c'est quand même traité avec cette espèce de distance et de regard malicieux ouais, qui participe de toute cette image qui est donnée, la croyance.
Et en même temps, je trouve que c'est intéressant parce qu'à la fois, c'est un cinéma qui ne se prend pas au sérieux et qui, comme on disait tout à l'heure, présente des personnages de façon très éclectique, sans les détailler. On voit quand même qu'il y a une forme de... Je trouve qu'il y a une certaine profondeur pour certains personnages qui apparaît au fur et à mesure du film. Et j'ai réfléchi un peu sur le moment, je ne l'ai pas vraiment vu, mais après, en y réfléchissant, je me suis dit que, par exemple, le cow-boy, donc Robbie, au début, il a l'air complètement débile et complètement incapable de jouer. Et en fait, il fait des efforts. Et la scène où on lui montre le film terminé, il n'est pas si mal que ça. Bon, c'est vraiment pas le rôle qui lui convient, vraiment. Mais il y a aussi ce dîner avec Carlotta, je crois, l'actrice... sud-américaine visiblement qui est assez tendre, je trouve que oui voilà c'est ça, c'est un grand enfant naïf en fait, il joue avec son lasso et c'est vraiment je trouve ça assez attendrissant. Et c'est pareil pour Mannix, c'est ça, qui est assez au début c'est la figure de l'homme d'affaires brutal, un petit peu calculateur, et en définitive à la fin du film il a sa famille, il y tient, il est malheureux dans ce métier qui, et il arrive à retrouver un peu de la foi justement, de la croyance, en se redonnant du goût à son travail. Et il y a quand même un peu de profondeur dans les personnages, alors qu'ils n'ont pas l'air comme ça, peut-être, au premier abord.
Malgré tout, je pense que c'est le film qui veut ça, c'est-à-dire que c'est un défaut qui ne peut pas être évité quand on se fait ce genre de film. Je trouve que justement, le fait que ça fasse feu d'artifice, comme tu le disais au début, fait que ça éclate tellement dans tous les sens qu'il y a une forme de linéarité dans l'extraordinaire.
Oui, c'est vrai. Quand même, il y a une sorte... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est aussi il y a une sorte de gratuité. Il y a certaines scènes qui ne servent à rien du tout et qui sont fantastiques. J'ai adoré la scène du foulard, là, quand la fille qui met la musique sur les images, elle se prend le foulard dans la machine.
Et même la scène avec les claquettes,
tous les courts-métrages, sont gratuits également. Parce que,
c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que ça découlait un peu sur le film lui-même, parce qu'au début... les scènes sont dans le cadre du cinéma, donc sont intégrées en tant que scène à part, et donc c'est normal en fait, en quelque sorte, que ce soit une sorte de parenthèse, et après elles deviennent peu à peu dans le film, les personnages eux-mêmes commencent à faire des scènes comme ça, parfaitement gratuites et hors du film.
Oui, comme la scène du sous-marin
c'est ça.
Voilà donc pour Ave César des frères Cohen, merci à tous les deux pour vos éclaircissements. Ave César est en salle pendant encore quelques temps au Comédia, juste à côté de l'ENS. On passe maintenant à notre traditionnelle revue des films en salle en ce moment. Et on commence avec El Clan, du réalisateur argentin Pablo Traprero. Ce clan, c'est d'abord l'histoire d'une famille. Une famille bien rangée, en apparence tout ce qu'il y a de plus normal. Le père, la mère, les enfants, dont un fils aîné, rugbyman dans la sélection nationale d'Argentine. Bref, une famille tout ce qu'il y a de plus propre. Et pourtant, cette famille, ce sont aussi les plus abominables crapules, qui se livrent à des enlèvements sordides avant d'assassiner les otages. Le film est d'abord un polar d'une noirceur corrosive, mais c'est aussi une satire goguenarde d'une société argentine au passé plus que trouble. Ensuite, « Je ne suis pas un salaud » d'Emmanuel Finkiel. Suite un certain Eddie qui, après avoir été agressé dans la rue, désigne à tort Ahmed, coupable idéal qu'il avait aperçu quelques jours avant son agression. Alors que la machine judiciaire s'emballe, Eddie tente de se relever auprès de sa femme et de son fils grâce à un nouveau travail, mais bientôt conscient de la gravité de son geste, Eddie va tout faire pour établir sa vérité, quitte à tout perdre. Un film dur et sans concession que je vous encourage à aller voir. Ensuite, Nahid, de l'iranienne Ida Panahande. Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans dans une petite ville au bord de la mer Caspienne. Selon la loi iranienne, la garde de l'enfant revient au père, mais ce dernier a accepté de la céder à son ex-femme à condition qu'elle ne se remarie pas. Un jour, Nahid fait la connaissance de Massoud, un charmant hôtelier dont elle tombe amoureuse. Auprès de lui, la jeune femme se sent bien et prend foi en l'avenir, mais pour envisager de faire sa vie avec lui, elle est contrainte de cacher cette liaison à son ancien mari, à son fils et à sa famille. Après une séparation d'Ashgar Faradi il y a quelques années, un nouveau film iranien sur le divorce qui a ému le dernier festival de Cannes. N'étoile plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons The Revenant d'Alejandro González Iñárritu, récemment oscarisé pour ce film. Merci à Sarah et à Maxime pour m'avoir accompagné au studio et à bientôt sur Transistor.